Voilà, bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de la conférence du professeur Manfred Oehming, que je ne vais pas représenter en détail, simplement pour rappeler qu'il est professeur d'Ancien Testament à l'Université de Heidelberg et que sa spécialité, c'est justement les livres dits des écrits des Ketuvim, donc les psaumes, mais aussi le livre de Job, dont il nous a déjà entretenu vendredi après-midi. Donc, le vendredi de la semaine dernière, il nous a proposé une lecture qu'il avait intitulée « Historico-critique du livre de Job », où il nous a montré que selon lui, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais selon lui, le livre de Job serait l'œuvre d'un auteur ou d'un rédacteur qui aurait en fait tout mis ensemble entre 400 et 300, donc entre la fin de l'époque perse et le début de l'époque hellénistique. Aujourd'hui, nous allons en fait nous avancer vers une lecture que M. Oehming a appelé une relecture psychodynamique du livre de Job. Donc là, nous allons en fait aller sur des terrains qui me sont un peu moins familiers, donc peut-être à certains d'entre vous aussi, où en fait M. Oehming va aborder le livre de Job dans cette perspective-là. Donc je me réjouis beaucoup d'avoir cette occasion de l'accueillir de nouveau. Et puis, à la fin de la conférence, nous pouvons faire comme vendredi dernier, nous pouvons prendre un petit moment pour dialoguer avec le professeur Oehming. Voilà. Merci encore une fois d'être venu de Heidelberg à Paris. Et la parole est à toi.
Merci, Thomas. Coupable ou innocent ? Une relecture psychodynamique. Vendredi dernier, lors du dernier cours, nous avons considéré le problème de juste souffrant dans la littérature d'Orient ancienne et nous nous sommes posé la question de l'intention originelle et historique du livre de Job. À cause de nombreux signaux textuels qui sont difficiles à comprendre et qui ne sont nullement univoques, l'interprétation de ce livre est contestée. Moi-même, je soutiens la thèse qu'il s'agit d'un manuel antique sapiental pour ce qu'en théologie nous appelons l'accompagnement pastoral, en latin « cura animae ». Aujourd'hui, nous tournons vers un tout nouveau chapitre. D'après mon herméneutique que j'ai développé dans mon livre « L'herméneutique biblique », en anglais « Contemporary Biblical Hermeneutics », j'ai développé l'idée que le processus de la compréhension se joue dans un mouvement entre quatre pôles. Quatre pôles. Les auteurs, les textes, le lecteur et l'enjeu ou le contenu du texte, en allemand die Sache ou la causa en latin. La psychologie de profondeur est orientée selon le lecteur contemporain et complète la compréhension historique orientée selon auteur. On se dévoile des processus qui se produisent dans l'intériorité de récepteurs, en général inconscient. La question n'est pas d'abord celle de l'intention de l'auteur, mais surtout celle des effets dans le lecteur, aspects qui peuvent au demeurant avoir un rapport les uns avec les autres. L'auteur peut partiellement orienter le processus intérieur tel qu'il se produise dans le lecteur. Souvent aussi, l'effet des textes peut être différent de l'intention de l'auteur. Deuxièmement, l'interprétation psychodynamique. La compréhension psychoanalytique est parfaitement séculaire. La Bible n'est pas comprise comme écriture sainte ou révélation secrète d'un être transcendant, mais juste l'expression des processus psychiques qui sont déclenchés d'aujourd'hui par les textes religieux. Que suscite le livre de Job dans un lecteur contemporain et quelle est la signification plus profonde d'un point de vue psychique? Job, c'est un mot hébreu. Il signifie, du moins d'après l'interprétation la plus répandue, où est le Père? Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, l'image de Dieu est souvent formée à l'exemple des relations familiales. Dieu se présente comme un père, dans les noms hébreux Avi, Yah, Yahvé, c'est mon père, ou comme un frère, Achi, Yah, Yahvé est mon frère. Le nom, déjà à travers le nom de son héros, le livre parle de la problématique du rapport au père. Comment se comporte le père avec le fils Job? Comment le fils doit-il comporter vis-à-vis d'un tel père? Pourquoi le père la torture et le laisse souffrir dans le cadre d'une sorte d'expérimentation? Pourquoi est-ce qu'il le livre à des sentiments aussi négatifs? Selon ma compréhension du livre de Job, il s'agit surtout de la question roborative. Suis-je coupable? Ai-je échoué? Ou suis-je innocent et le père est échoué? Le malheur et la maladie auxquels Job succombe dans la perspective de l'Orient ancien comme de l'image moderne du monde, conduisent à la question « Qu'est-ce que j'ai fait que je dois subir un tel malheur ?» Dans le livre de Job, aussi par l'intermédiaire des amis et de sa femme, Dieu se présente comme l'expression de la mauvaise conscience. Deuxième selon Sigmund Freud, le centre de la région se situe dans la confrontation avec le père. Le surmoi qui influence massivement la vie psychique et qui est imaginé comme Dieu. La religion peut conduire le croyant à la soumission obéissante au père sévère. Veut le contraindre à suivre les commandements malgré des résistances et à s'y tenir. Freud reste cela comme infantile. Sa critique de la religion peut à l'inverse faire sortir de toute soumission régressive. Dans Totem et Tabou, il esquisse une théorie pas du tout historique, mais éclairante de point de vue psychologique, du meurtre de Moïse comme une forme de la rébellion du moi contre le surmoi. Et en certains sens, le meurtre du père est le thème principal du livre de Job. En dernier ressort, le livre est une forme de critique de la religion. Selon Freud, les rêves sont particulièrement révélatoires pour la vie intérieure d'un être humain. Le rêve est la voie royale, via regia, vers la notion. Le rêve a toujours une signification profonde dans la vie de celui qui rêve. Les stimulations libidineuses cachées sont transférées dans le rêve, ce qui génère des symboles en partie paradoxaux qu'il s'agit d'interpréter. Dans le livre de Job, des rêves et des visions sont présentés deux fois, comme les clés herméneutiques, au chapitre 4 et 33. Pour l'image de Dieu du livre de Job, ces textes sont décisifs dans la perspective freudienne. Je cite « Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli des sons légères. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayer l'épouvante et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'attendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pour devant celui qui l'a fait ? La vision conduit à la question rhétorique. L'homme serait-il juste devant Dieu ? Plus clairement, la culpabilité d'être humain et l'appel à la conversion sont thèmes principaux de la deuxième rêve, selon le discours d'Elihu, en chapitre 33. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le scot à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, afin de détourner l'homme du mal et de le penser, préserver de l'argueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Le rêve est la révélation radicale de la culpabilité. Aucun être humain n'est sans faute. Le rêve est une exhortation implicite à la repentance. C'est précisément contre cette suspicion générale que Job se rebelle. « Je suis innocent ». Freud lui-même n'a pas consacré une monographie ou même article du livre de Job au livre de Job, mais Paul Ricoeur a repris sa manière de penser la Bible et l'a prolongée. Il s'est confronté intensément à Freud. Dans ce contexte, le livre de Job fait souvent sujet de son attention. Paul Ricoeur a repris... Paul Ricoeur veut montrer que l'être humain doit se confronter à sa culpabilité et au mal en Dieu, le mal en Dieu, avec une forme de maturité. La foi authentique croit pour rien. Job 1er chapitre 9. Il ne s'agit pas d'obtenir une récompense au Père ou d'être blanchi par le juge divin. Dieu est totalement séparé de la morale. Le livre de Job conduit, pour ainsi dire, à une morale autonome. Deuxièmement, Carl Gustav Jung. En 1915-12, Jung s'intéresse à la religion d'un point de vue psychologique. Il publie le célèbre et très controversé « Réponse à Job », écrit à partir des éléments des journées Eranos, intitulé « Une approche psychologique du dogme des Trinités ». Sur la base de la narration qui forme le cadre du livre de Job, Jung pose un diagnostic psychologique sur le dieu Yahvé. Dans la perspective critique du psychoanalyste, Dieu se présente comme personne avec beaucoup de complexes, comme une composite incompréhensible entre tous les opposés possibles et imaginables. Dieu est à la fois juste et injuste, fiable et incontrôlable, préservant la vie et néantissant la vie. Dieu est un être amoral. Je cite, « Yahvé n'est pas divisé, mais il est une antinomie, une opposition totale intérieure, le présupposé indispensable de sa dynamique effroyable. » Le Dieu de l'Ancien Testament a, selon Jung, d'un côté avec d'être humain, une relation très personnelle. Mais d'un autre côté, il témoigne d'une méfiance et d'une jalousie extrême. C'est pourquoi il est susceptible et peut facilement être déçu. Jung diagnostique chez ce Yahvé une perturbation narcissique. Et c'est pourquoi, à la fin, ce Dieu doit montrer ses muscles. Il faut qu'il montre à Job combien d'êtres humains est petit et faible. C'est-à-dire qu'il doit compenser son infériorité morale par une mise en scène théâtrale et des écrits pour rebaisser Job et montrer la supériorité de son propre pouvoir. Le Père lui-même doit s'abaisser et se faire petit. C'est-à-dire que Dieu doit devenir humain. Dieu doit devenir humain. En ce sens, Job a souffert pour nous parce qu'il, à travers sa souffrance, une nouvelle étape de la révélation à Dieu est devenue possible. Dans l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, Dieu accède à la plus haute forme du moral. La plus haute forme du moral. Cependant, aussi après Jésus-Christ, la destructivité schizoïde de Dieu s'impose de nouveau dans le jugement dernier, dans l'Apocalypse de Jean. Dieu organise un jugement colérique et sanglant du monde entier. L'interprétation de l'Apocalypse, qui prend une grande place chez Jung, je laisse de côté. Ce qui est décisif concernant le matériel du livre de Job pour Jung, c'est que Dieu doit se transformer. Dieu doit se transformer. Lui qui a un surmoi juif et vétérotestamentaire, qui est des traits archaïques, primitifs et sadiques. Il devient un être qui surmonte les forces de destruction et les intègre dans une forme d'amour. Dans une perspective séculière et psychologique, dans son contexte biblique général, le livre de Job a la signification suivante. Un être chaotique est transformé en un soi. Roman Lesmeister, un analyste de Hambourg, a étudié la question, comment cette interprétation de Job est à comprendre dans la perspective de la personnalité de C.G. Jung lui-même. Jung a écrit son livre sur Job, justement dans une période où il avait eu une crise cardiaque. Le Jung, fort et fié, un grand homme, est devenu un homme vieux et fragile. Dans la confrontation à cet événement, Jung découvre la matière du livre de Job. L'accusation de Dieu reflète le désespoir de Jung au sujet de son propre destin et sa manière de travailler la situation de la souffrance. La psychologue Kathleen Newton de London va encore plus loin. Elle critique l'interprétation de Jung en disant qu'elle est unilatérale et déformée. Si Jung utilisait dans sa compréhension de Job la même acuité analytique qu'en ce qui concerne Yahvé, le Dieu, il aurait dû découvrir que Job a projeté sa part d'ombre sur ses enfants. Job s'en tient à une image idéale tant de lui-même que de Yahvé, ce qui explique combien il est désorienté dans la réaction et comportement de Dieu. Lorsque celui-ci contredit précisément cette image. En dernier ressort, dans la confrontation avec Job, Jung travaille ses propres blessures narcissiques et prend la position de celui qui est choqué d'un point de vue moral. En cela, il est typique. Overbite is reversed in moral beat. Celui qui a été blessé ou mordu d'un point de vue narcissique repent dans une logique morale. Jung se prend pour Dieu bien supérieur au destin d'un point de vue moral. Cela explique le large spectre de la colère contre Dieu qui fait la leçon au Père apparemment à bon droit. Deuxième trois, Hartmut Raguse et Melanie Klein. Une troisième forme d'approche de Job relevant à la psychologie de profondeur est celle de Hartmut Raguse, théologien et psychoanalyste de Bâle. Il n'est acquis beaucoup de mérite dans l'interprétation psychologique des textes bibliques en général. Pour son interprétation du livre de Job, il se réfère à la théorie de Melanie Klein, une étudiante de Freud, qui a développé une théorie du rapport à l'objet, qui a surtout été développée avec des enfants. Dans ce concept qui se fonde à l'âme des enfants, il ne s'agit pas de rapport réel à des objets ou des personnes dans le monde extérieur, mais des schémas intériorisés avec lesquels les personnes et les objets sont appréhendés dans le psychisme infantile. Ces schémas, cependant, toutes connaissent rationnellement et adultes et les orientent inconsciemment. Les tout petits enfants éprouvent au début une grande difficulté de concilier dans leur psychisme des expériences opposées, d'entre d'un côté une bonne mère qui prend soin d'eux, et d'un autre côté, une mère absente, et qui donc est mauvaise. Et donc, ils construisent le schéma de deux mères, celle qui est aimée et celle qui est haïe. Mais cette constellation m'innocente parce qu'il n'y a pas la conscience de la continuité du temps et ainsi l'enfant est livré sans recours à sa haine et son désespoir. Cela se produit toujours quand la bonne mère est absente et qu'il n'y a que mauvaise mère qui, ne serait que pour quelques minutes, ne s'occupe pas de l'enfant. Parce que dans cet contexte, la mère est divisée en deux images et que la partie mauvaise est vécue comme persécutrice, klein, nomme ce schéma la position paranoïde schizoïde. Comment sortir de cette division? C'est souvent le père ou un autre tiers qui offre une sortie de schéma, un tiers qui est justement présent quand l'enfant se sent livré à la mauvaise mère. Il peut prémunièrement consoler l'enfant au sujet de la perte apparente, mais il y a encore une autre fonction bien plus importante, parce que l'enfant remarque que le père est lié à la mère, et plus encore aux deux mères, le père est lié aux deux mères, dans le cadre d'un processus d'apprentissage, l'enfant peut découvrir que la mère est et reste la même dans tous les cas. De la sorte, se développe un sentiment de la durée dans le temps et l'enfant apprend à avoir attendre sans désespérer. Savoir attendre, c'est important. Quand un enfant a intégré les deux images de la mère, la bonne et la mauvaise, dans une image unique, alors qu'il dispose des conditions pour une appréhension plus riche de la réalité. Qu'est-ce que ça signifie pour le livre de Job? Il ne s'agit de la personne historique de Job, par exemple à sa relation réelle à son mère. À ce sujet, nous sommes dans l'ignorance la plus complète. Job divise Dieu et il démonise Yahvé en vient à une satanisation de Dieu. Il y vient son ennemi qui fait de lui la cible de ses flèches. Peu importante qu'il soit coupable ou innocent. Je suis innocent, Job sait. Je ne veux plus vivre. Je méprise ma vie. Le monde est dans la main d'un criminel. Il n'y a pas de formulation plus fortement accusatrice de Dieu dans la Bible. Le monde est dans la main d'un criminel. Mais la relation de Job à ce Dieu persécuteur demeure. Job parle de ce Dieu, même si c'est sur le monde d'accusations cyniques. La division entre le Dieu méchant et le Dieu bon est déjà surmontée dans la forme linguistique du discours de la plainte et de l'accusation, même si elle demeure présente sur le plan du contenu. C'est comme si un enfant disait avec plein de confiance à sa mère combien il la hait. Mais la relation est menacée par la question irrésolue : comment les deux expériences à ce point opposé peuvent se relier. Dans ce contexte, la figure mystérieuse du Goël, du Rédempteur, est importante. Job confesse, mais je sais que mon rédempteur, celui qui m'a racheté, est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Ce troisième personnage qui effectue la médiation entre Yahvé et Job s'avère ensuite identique à Dieu lui-même. Globalement, Raguse interprète le livre de Job selon le modèle des expériences infantiles. Chaque enfant ne se réjouit dans son monde de son enfance, mais souffre de la faiblesse et de la dépendance. Les bons parents voient cependant en lui également un futur adulte et l'aide au-delà de cette vexation liée au fait d'être petit. De la sorte, à chaque enfant est transmis aussi le contraire du fait d'être petit, le sentiment d'une certaine grandeur qui est rejoint par d'autres expériences dans la vie de l'enfant. La situation d'Œdipe, donc le fantasme d'être une partenaire disposant de même droit que les autres dans le triangle avec les parents, trouve dans ce phénomène ses origines. Mais il faut nécessairement qu'elle échoue aussi parce que la représentation de son grandiose ne peut complètement voiler la petitesse et la dépendance réelle. Quand un enfant est renvoyé à ses limites d'enfant, alors qu'il peut réagir en règle générale de deux manières. Il va accuser et tyranniser les parents et il va négocier avec eux en essayant de les contraindre à toute une série de compromis. Cela peut être très pénible. L'autre possibilité consiste en reconnaître son être enfant et sa petitesse et d'accepter la différence avec les parents. On fait partie d'accepter de ne pas être une partenaire appropriée par un des deux parents. Un enfant doit pouvoir supporter la question des parents « Où étais-tu ?» qu'on nous avons conçu. Et enfin, elle est le mieux disposée à renoncer à cette égalité de droit quand les parents ne blessent pas son souhait de grandir, mais lui montrent que cela a du sens de pouvoir attendre. Quand un enfant consent à renoncement, alors il n'a plus besoin de haïr ses parents et de trouver liberté des sentiments de culpabilité et découle de cette haine. Ce que Job doit apprendre est la reconnaissance de son être créature. Cette reconnaissance de son statut de créature donne à Job la possibilité de ne plus expérimenter Dieu comme un démon qu'il faut combattre pour se vivre, mais au contraire, d'accepter la dépendance absolue et d'attendre dans les temps de détresse le retour de la mère sécurable. C'est pourquoi le Satan disparaît. Deuxième 4, Eugen Drewermann. Eugen Drewermann, prêtre catholique et psychothérapeute de Paderborn en Allemagne, a mis en place d'importants fondements théoriques avec son livre classique « Tiefenpsychologie und Exégese », traduction française « Psychoanalyse et l'exégèse 2000 et 2001 ». L'hypothèse de base est la suivante. Tous les récits bibliques ont deux dimensions. L'une de la surface, ce qui relève l'objet appelé « objectal », et une signification plus profonde qui est consciemment et se trouve dans l'intériorité de l'être humain, ce qui relève du sujet appelé « subjectal ». Pour illustrer brièvement à l'aide d'un exemple, le récit de l'Exode traite de la confrontation de Moïse avec le Pharaon. Les 10 plaies qui mettent le Pharaon à genoux de sorte qu'il finisse par concéder sa liberté à Israël. Mais le voyage dans le désert est long et dur. Israël souhaite plusieurs fois retourner au pot de viande d'Égypte. Finalement, il s'agit de lutte dans le pays de la promesse, dans le pays où coule le lait du miel. Selon Drewermann, qui serait une forte réduction d'admettre qu'il s'agit ici uniquement d'un fait historique. Dans le récit de l'Exode, je cite, « Au fond, aucune séparation ne put être faite entre mythe, légende et le conte. » Ainsi est donnée une autorisation à interpréter les événements raconté aussi comme un miroir des processus d'intérieur. Le pharaon est, en abrégeant, le père. Israël et Moïse sont les enfants qui se révoltent contre le père. Les plaies symbolisent la phase de la puberté. L'Exode, la sortie de la maison des parents, le voyage dans le désert, le devenir adulte, les pots de viande de l'Égypte, les tentations régressives de retourner dans la dépendance des parents, les cas de Pharaon qui les poursuivent sont les troubles de la conscience. Lors de l'assurance obsessionnel d'une morale aliénée ou une piété légaliste purement extérieure, combien de peurs en sont libérées et combien de punitions et de reproches intériorisés pleuvent dans les circonstances à celui, cette image d'écart persécute le pharaon, s'impose véritablement pour décrire ce qui se joue. Drewermann a utilisé cette méthode dans l'interprétation de beaucoup de textes du milieu biblique, surtout le récit des origines et l'évangile de Luc. Quels que soient les textes différents, il y a pourtant comme un fil rouge. Il s'agit presque toujours de grandes angoisses intérieures qui attaquent et torturent les êtres humains et de dépassement de la peur par une intervention du soi. Avec Jung, nous pourrions dire qu'il s'agit d'un processus d'individuation long et douloureux. Chez Drewermann, le processus de l'intégration de la part d'ombre est en chacun joue également un rôle important. Comment cette distinction de Drewermann entre objectal et subjectal pourrait-elle s'appliquer au livre de Job? Que je sache, Riverman n'a pas livré l'interprétation d'ensemble de ce livre biblique, faisant juste occasionnellement quelques remarques brèves. C'est pourquoi je vais moi-même tenter une telle interprétation dans son esprit. J'ai publié en 1985 un article proposant une vue d'ensemble au sujet de l'interprétation de la Bible, des classiques de la psychoanalyse, Altes Testament und Tiefenpsychologie, Aufklärung oder Freudsche Fehlleistung. On pourrait traduire l'Ancien Testament et Psychologie des profondeurs, Lumination ou acte manqué freudienne. Et depuis, j'ai toujours et encore travaillé avec la méthode de Drewermann, par exemple dans l'interprétation des histoires d'Élie ou encore du livre de Tobie et des psaumes. Quelle est la signification de l'histoire Job pour être humain intérieur? Insistant là-dessous, il s'agit de cette histoire dans son ensemble, une histoire dans son ensemble. Il ne s'agit pas des aspects particuliers, mais un chemin global de Job comme processus de développement. Non pas linéaire, mais avec des retours en arrière, des détours et des répétitions. Dans la vie réelle, cette histoire peut durer des années, avec beaucoup de préalables, des régressions et de nouveaux départs. Dans la narration, elle est comprimée. Quels sont les processus dans l'intérieur qui voient viser avec la narration d'une déroulement extérieur. Quel est l'équivalent psychique de Satan? Quelle est la fonction de Dieu? Je vois Job au début comme un être humain qui se repose en lui-même, qui est satisfait. Il part du point de vue que certes des enfants peuvent commettre des manquements, mais pas lui-même. Il n'offre de sacrifice que pour eux, eux qui lui projettent sa part d'ombre, pas pour lui-même. Pourquoi pas pour lui-même? Il est au clair avec lui-même et il se considère comme parfait. Nous avons là un problème de manque de maturité. Job ne connaît pas la puissance du péché en lui-même. Il nie sa propre part d'ombre. Ensuite, il est victime d'une profonde souffrance, d'une perte, d'une maladie et de la mort. Tout cela est condensé dans une logique symbolique. Ces événements le précipitent dans des angoisses profondes. Le Satan, c'est le symbole du doute. Douter de lui-même conduit à questionner ce bonheur harmonieux. Ne suis-je pieux que parce que je vais si bien? Sera-t-il encore dans une bonne relation avec Dieu si celui-ci ne le traitait pas si bien? Du point de vue subjectal, cela signifie que la relation aux parents, en particulier au père, est mise à l'épreuve. Est-ce que le fils Job l'aimerait encore s'il ne le traitait pas avec justice et amitié? En présence de l'expérience de la souffrance, Job s'écroule entièrement. Une profonde angoisse s'abat sur Job. Job se défend contre cette angoisse existentielle d'abord avec un stoïcisme, ensuite dans la dépression, mais ensuite plein d'un humour amer. Avec cynisme, et agressivité. Il se lève dans l'accusation de Dieu et dans la négation de toute culpabilité. « Je suis sans faute. » Il examine son comportement et constate qu'il a tenu sous la il constate qu'il a tenu tous les commandements. Simple. Il a été obéissant et c'est pourquoi le Père n'a aucun droit de critiquer et de le ou de le condamner. Du point de vue subjectif, cela signifie que la mise en question de son ingratitude morale peut détruire un être humain. Job éprouve une profonde vexation narcissique. La fin de l'illusion selon laquelle on n'a soi-même rien à faire avec le mal est douloureuse et suscite les forces de défense agressives et une forme de négation cynique. Comme le remarquait Emmanuel Kant, Job n'a pas fondé sa moralité sur la foi. Job n'a pas fondé sa moralité sur la foi, mais la foi sur la moralité. La perte de sa base dans sa propre moralité détruit la structuration intérieure de Job. Le doute à son sujet le conduit au désespoir. Les doutes vis-à-vis de soi-même conduisent au doute concernant le sens de l'être en général. Les amis symbolisent les perturbations de la conscience et qui détruisent l'harmonie intérieure. S'il lui arrive de terrible et juste, alors la vie soit absurde. Le quatrième ami également, le plus jeune, propose des arguments semblables. D'un point de vue subjectal, Job parle avec lui-même. D'un point de vue subjectal, Job parle avec lui-même. Ses amis représentent sa propre vision du monde telle qu'elle se présentait avant qu'il ne souffre en crise. Du point de vue subjectal, les amis ont exactement la même fonction que les rêves selon Job 4 et 33. Ils accusent Job. Ils sont les voix de la conscience. Ensuite, Dieu le rencontre d'une manière immédiate. Qu'est-ce que Job a appris? Les discours de Dieu, voulant lui montrer que Dieu ne s'occupe pas seulement d'êtres humains, mais qu'il y a par-delà, ordre du monde des humains, encore une ordre supérieure, que Dieu prend en compte et protège également. La vision anthropocentrique, égocentrique du monde de Job est corrigée par une vexation salutaire. Ce qu'en tradition lacanienne, nous pourrions appeler une castration symbolique. De la sorte, Job est libéré de sa fixation sur sa souffrance, dans la mesure où Dieu tourne son regard vers d'autres champs de la réalité et lui ouvre les yeux à l'amplitude de l'être. Dieu déploie un discours relevant à une sorte eschatologique philosophique, c'est-à-dire un idéal auquel la pensée et la réflexion à propos de Job doivent conduire celui qui souffre. Supporter le tragique, accepter que Dieu le Père, l'histoire du monde, n'est pas une instance morale. Renoncer à la plainte et à l'accusation, tout cela a profondément transformé Job. Cette existence ici-bas n'est pas structurée selon une logique éthique. Le monde n'est pas bon. Au contraire, le mal est en lui toujours et partout. Il faut admettre, la reconnaître et le supporter. La découverte que l'on ne peut pas sonder les arrière-fonds de la souffrance, de l'absence de fondement de la foi, peut avoir un effet profondément libérateur. Le potentiel du livre de Job pour l'accompagnement pastoral réside en ceci, qu'il montre combien Dieu est présent au cœur de l'expérience de souffrance, de manière à ce que l'on puisse vivre... La découverte, quand l'on ne peut pas sonder les arrière-fonds de la souffrance, de l'absence de fondement de la foi, peut avoir un effet profondément libérateur. Le potentiel du livre de Job pour l'accompagnement pastoral réside en ceci, qu'il montre combien Dieu est présent au cœur de l'expérience de souffrance. Seule cette proximité aimante représente une véritable aide. Ni l'illustration d'un meilleur des mondes possibles, ni la représentation du monde futur sans souffrance ne console, mais l'acceptation active de la souffrance de la manière à ce que l'on puisse vivre avec elle. C'était une citation de Fritz Lienhardt. Bilan. Nous pouvons distinguer quatre types d'interprétation du matériau du livre de Job relevant à la psychologie des profondeurs. Premièrement, d'après Freud, il s'agit de tuer le père, c'est-à-dire de révéler toutes les représentations classiques et théistes de Dieu comme des manœuvres autoritaires, immorales, et de se libérer par cet acte de dévoilement des obsessions religieuses hétéronomes pour devenir complètement autonome. Deuxièmement, d'après Jung, il s'agit de percer à jour le Père sans sa contradiction et son chaos. Ensuite, le Père doit se transformer. Le Père doit se transformer. C'est lui qui doit sortir des structures contradictoires et violentes pour devenir un être humain. L'image de l'incarnation de Dieu est un symbole pour la transformation du surmoi hautement énergétique qui doit descendre de sa haute et renoncer à son agressivité pour intégrer sa propre part d'ombre, la côté obscur de la force, dans la puissance de l'amour qui pardonne. La puissance de l'amour qui pardonne est le symbole pour ça, pour cela, s'écrit, et ainsi se transformer. Selon Raguse, l'être humain doit apprendre à appréhender Dieu dans son ambivalence, et à supporter le Dieu bon autant que le Dieu mauvais. L'enfant Job, c'est-à-dire tout être humain, doit se modifier en ceci, qu'il se soumet à la génération plus ancienne et à la puissance et trouve ainsi sa paix. Le Père doit être reconnu dans sa puissance et il est nécessaire de se soumettre à lui. Quatrièmement, selon moi, en la continuité avec Ricoeur et Drewermann, le livre de Job, dans son ensemble, dispose d'une unité de sens. Cheminer avec Job et travailler les différentes stations dans la souffrance représente une orientation ou une aide pour la maturation de la personnalité. Job ne doit pas enfermer le père dans le corset de ses représentations. Il ne doit pas idéaliser le Dieu gentil à briser en cours de route, mais il ne doit pas non plus de diaboliser le Satan disparu au cours de le chemin de Job. Il doit apprendre à vivre avec le mal, aussi en Père, en Dieu. C'est dur et même cruel. La rencontre avec la violence brutale, avec la puissance du péché, la rencontre avec les doutes au sujet de lui-même, et le doute sont ensemble l'expérience de l'abîme et de l'absurde, l'expérience de la souffrance font partie du devenir personne. Job assied Dieu, le Père, sur le banc de l'accusé. Il pose des questions très critiques, mais Dieu donne raison à la fin à Job qu'il ait critiqué Dieu avec tant de rigueur. Paradoxalement, l'expression des reproches est nécessaire pour la santé mentale. L'exégète de Bâle, Hans-Peter Matthies, dans son livre « Aime ton prochain comme toi-même », a proposé une compréhension surprenante au commencement de l'amour du prochain, déjà par la traduction. N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à lui faire des reproches. N'hésite pas à lui faire des reproches pour ne pas te changer d'un péché à son égard. N'exerce pas de vengeance, ne sois pas rancunier vis-à-vis les filles de ton peuple. C'est ainsi que tu aimerais ton prochain comme toi-même. Fritz Lienert, mon collège de Heidelberg, constate à ce sujet, remarquant que ce verset fait porter l'accent sur la nécessité de reprocher à l'autre ce que l'on a sur le cœur. Ce reproche est la condition de la possibilité de l'amour du prochain. Il faut pouvoir faire des reproches pour pouvoir aimer autrui et soi-même. Dans cette perspective, le langage des psaumes de la plainte et même des psaumes de vengeance devient compréhensible. Ils offrent un matériel linguistique permettant au mal qui rend la communication de faire lui-même l'objet d'une communication. Le doute, la critique de Dieu sont salvatrices dans le livre de Job. Ils ne sont pas l'inverse de la foi, mais font partie de la forme mûre de la foi. Conclusion finale. Le questionnement critique et l'accusation, le fait de débattre avec Dieu et d'exprimer ses pensées désagréables et même blasphématoires, est ancré dans le canon de la Bible hébraïque comme écriture sainte, pas seulement en Job, mais aussi en Coëlette et dans des psaumes de plainte. Cela est impressionnant et merveilleux. Le canon biblique, les écritures du milieu biblique, contraient à la critique des structures autoritaires dans l'image de Dieu, à la critique d'une conception naïve de « tout le monde est beau, tout le monde est gentil ». Ainsi, dans la fidélité au texte lui-même, la théologie biblique est une science critique. Elle réfléchit aux images de Dieu, de la tradition, dans une perspective critique, et contribue de la sorte à une foi vivante dans la solidarité critique avec l'Église. Drewermann formule justement « Selon mon impression, nous vivons aujourd'hui des jours semblables à ceux de Job. » Merci beaucoup pour votre attention.